Nous allons lire dans Apocalypse, donc veuillez tourner au chapitre 4, nous allons commencer à partir du verset 1. Donc Apocalypse, chapitre 4, verset 1, on va lire jusqu'à 11. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite ». Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Que le Seigneur bénisse sa parole.
Merci, David. Pierre Bruneau, de TVA, il a fait l'ascension, vous êtes au courant, il a fait l'ascension du Kilimanjaro, n'est-ce pas? Quelqu'un a vu ça? OK. Avez-vous remarqué les commentaires qu'il a fait? Il cherchait, il trouvait ça extraordinaire, la vue, il voyait ça, puis c'était merveilleux. C'était grandiose, c'était quelque chose qui, il avait de la misère à mettre des mots, ce qu'il voyait sur le mont lorsqu'il avait réussi à monter tout cela, il était fier, il était dans un endroit tout à fait spécial, puis il avait fait des efforts et tout cela, puis il était sur le haut de cette montagne, et puis il regardait la création de Dieu, puis là, il n'en revenait pas de la beauté, de la grandeur. Et puis, je me sens comme ça ce matin. Non, je n'ai pas monté le mont Kilimanjaro, non, du tout. Mais j'ai passé beaucoup de temps dans Apocalypse 4. Puis, laissez-moi vous dire quelque chose ce matin, j'ai une tâche énorme. Parce que j'aimerais partir du bon pied avec vous. On entre dans deux chapitres. On va avoir trois semaines ensemble dans ces chapitres. Il y a Bethel qui vient dans deux semaines. Et j'aimerais partir du bon pied. On va entrer maintenant dans le symbolisme de l'Apocalypse. Puis tout de suite, en partant, j'aimerais vous dire que tout ce qu'on vient de lire, les choses étranges, les symboles, ils ont tous une référence dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que je vais faire référence à l'Ancien Testament ce matin beaucoup. Lorsqu'on arrive au chapitre 4, au chapitre 5, certains spécialistes vont nous dire que c'est la clé de tout le livre de l'Apocalypse. Si on ne comprend pas le chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse, on passe à côté des chapitres 6 à 19, puis on passe à côté de tout ce que Dieu veut révéler. Il se passe quelque chose à quelque part dans le ciel, donc on quitte la planète Terre. Et là, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsqu'on quitte la planète Terre, on prend des mots humains pour décrire des choses qui nous dépassent. Et vous allez voir que les hommes de Dieu de l'Ancien Testament et les hommes de Dieu du Nouveau Testament, lorsqu'ils quittent la planète Terre, et Dieu permet qu'ils voient des choses qui dépassent ce qu'un homme humain normalement voit, Ces auteurs du Nouveau Testament cherchent des mots pour expliquer, ils essaient de nous décrire. Donc, ce matin, on va être comme un groupe qui entre dans une galerie d'art. Et on a un immense tableau devant nous, rempli de symbolisme. Et chaque détail veut dire quelque chose. Chaque détail veut souligner une vérité quelconque. Et nous sommes là et on va ensemble observer la parole de Dieu. Premièrement, j'aimerais commencer par la chronologie personnelle de Jean. Avez-vous remarqué les premiers mots du chapitre qui est « après cela ». Et ça, c'est rattaché en fin de compte au chapitre 1, 10 à 19 de cette vision dans le ciel. Et après cela, c'est-à-dire après les choses qui sont, alors on arrive là à, comme une parenthèse du chapitre 4 et 5 entre les chapitres 3 et 6 à 19. On rentre dans le ciel. Et on voit au travers de l'Apocalypse que souvent cette expression va venir. Au chapitre 7, et on va revoir le chapitre 7, verset 9, chapitre 15, verset 5, chapitre 18, 1 et 19, 1, on va avoir cette expression qui revient « après cela, après cela, après cela ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parenthèse est fermée de ce qu'on vient de voir. On rouvre une autre parenthèse. Et là, Jean va continuer à décrire ce qu'il voit. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a remis un article qui s'est marqué « Apocalypse 2012 ». Un type qui prédit la fin du monde en 2012. Vous avez entendu parler de ça? Qui a entendu parler de ça, là? Levez la main. On sait de l'Apocalypse, hein? Et il y en a qui vont faire des carrières sur l'Apocalypse. Je ne les nommerai pas, mais j'en connais quelques-uns qui ont fait des carrières de prédicateurs, d'enseignants sur l'Apocalypse. Et ce matin, j'aimerais ensemble qu'on puisse, nous, saisir notre texte. Qu'est-ce que ça dit vraiment, l'Apocalypse? Très facile de prendre une tangente. Très facile d'arriver avec une expression, avec un terme, et prendre une tangente puis en faire dire pas mal n'importe quoi. C'est pour cela qu'en fin de compte, j'aimerais vous dire qu'on va observer le texte ensemble, et si j'aurais un message à donner ce matin, un titre à mon message, ça serait la vision du trône de Dieu. On a l'occasion, avant de mourir, d'avoir une description de qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. On a le privilège, par la parole de Dieu, inspirée de Dieu, Jean écrit ce qu'il voit avec son langage de l'époque, avec sa connaissance de l'Ancien Testament. Il essaie de décrire quelque chose qui le dépasse, quelque chose de grandiose. Quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que ça vous arrive des fois de vivre quelque chose, de voir quelque chose, puis les mots vous manquent? Vous aimeriez être un habile écrivain, puis vraiment décrire ce que vous voyez ou ce que vous expérimentez, puis il manque des mots là pour vraiment sortir tout. Et à fin de compte, Jean est là, et là j'imagine, hein, ces neurones doivent... Puis là, il regarde ça, puis il voit les détails. Et c'est ce qu'on a, par la grâce de Dieu, ce matin, tenté de faire, saisir la pensée de l'auteur, qui est premièrement Dieu qui a insufflé à Jean, et Jean qui a écrit sur l'île de Patmos. Il commence avec une porte. J'ai trouvé ça sur Internet, j'ai trouvé ça le fun, comment que les artistes peuvent représenter une porte dans le ciel. En or, naturellement. Mais ce n'est pas ça qui est marqué. Il y a une porte ouverte. On quitte la planète Terre. Il y a une porte ouverte. Il y a une accessibilité. Et là, Jean, lorsqu'il va arriver, il entend la première voix qu'il avait entendue au départ dans Jean, dans Apocalypse 1:10. Il entend la voix de Jésus-Christ et dit les choses qui doivent arriver par la suite. On a quitté les sept églises de l'Asie. Ces vraies églises historiques. Et là, après cela, Voici, la porte est ouverte, Jean a sa vision, et Jean entend la même voix qu'entendue au début, la même narration, le même narrateur, c'est Jésus-Christ qui parle, et il entend ceci, les choses qui doivent arriver par la suite. Ensuite, il va nous dire, « Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, voici, il y avait un trône. » Et si vous vous demandez c'est quoi le thème du chapitre 4 d'Apocalypse, dites-vous une affaire, on retrouve 12 fois, dans ce petit, dans 11 versets, on retrouve 12 fois le mot « trône » s'adressant au trône de Dieu. On retrouve 2 fois les trônes au pluriel qui est mentionné pour les 24 vieillards. Mais le trône de Dieu, le trône de Dieu, le trône de Dieu, tout de suite en partant, on saisit une chose. Apocalypse 4 veut nous donner une vision du trône de Dieu. Saisissons tout cela. Qui quoi? Qui symbolise l'autorité et la souveraineté de Dieu. Dieu est celui qui gouverne. Peut-être qu'on ne pense pas cela là, dans ce temps-ci. Ah non, c'est Bush, c'est les politiciens, c'est ces gens-là qui dirigent la planète Terre. Mais non, Dieu est en contrôle. Il n'y a rien qui arrive sur la planète Terre que Dieu le permet. Dieu est en contrôle. Et le trône, et il ne faut pas se tromper. Et lorsqu'on parle de trône, on voit souvent, hein, comme qu'on voit dans les films, un trône avec quelqu'un d'assis dessus. Mais j'aimerais vous dire que le trône de Dieu n'est pas nécessairement cela. On nous suggère que le trône de Dieu, c'est là où ce que Dieu est, c'est là où ce que Dieu règne, et Dieu dit lui-même, « Le ciel est mon trône et la terre est quoi? Mon marchepied. » Donc, nous voyons ici un exemple du trône de Salomon qui avait 6 élévations, 6 lions d'un côté, 6 lions d'autre. J'ai choisi cette image qui est pas mal claire, et ça serait le fun d'avoir quelque chose d'un peu plus puissant. Et on voit là le groupement de gens qui sont là dans l'Ancien Testament, le trône de Salomon, qui est, en fin de compte, une faible représentation du trône de Dieu. Mais on voit quand même un peu l'environnement de tout cela, avec toutes sortes de gens qui sont là. Et on ne s'approche pas de ce trône-là n'importe comment. Il y a 6 élévations. Le roi est là qui donne ses jugements. C'est lui qui gouverne, qui a droit de vie ou de mort. C'est lui qui décide les choses. Et le trône terrestre des hommes est un infime, si vous voulez, représentation du trône qu'on va voir ensemble. Hébreux 1.3 nous dit « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. » C'est donc important de réaliser que Jésus-Christ, dans l'an de grâce 2008 dans lequel nous sommes, Dieu est là, assis à la droite de la majesté, et c'est là que Dieu, Jésus-Christ, gouverne. L'aspect d'une pierre de jaspe. Le texte 3a va nous dire, il y avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Et qu'est-ce que c'est là? Apocalypse 21.11 va nous dire que c'est transparent comme du cristal. Quelque chose qui est extraordinaire, qu'on voit au travers. On va aussi savoir que c'est le reflet, et cette pierre de jaspe, à fin de compte, c'est le reflet qui reflète les facettes éclatantes de toute couleur du spectre de la gloire de Dieu. Ça devait être extraordinaire. Jean essaye de nous montrer la grandiosité de tout cela, la grandeur de tout cela. Il va nous dire aussi qu'il y avait l'aspect d'une pierre de sardoine. Un rubis brillant, couleur saint. Et cela représente, en fin de compte, qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est la première et la 12e pierre précieuse sur les pectoraux du souverain sacrificateur dans Exode 28, 17, 18. On voit ces deux pierres dans l'Ancien Testament qui représentent quelque chose. Jaspe représente le rubin qui veut dire « voici le fils ». La sardoine représente Benjamin, le fils de ma droite, symbolise l'alliance de Dieu avec Israël. Dieu n'a pas oublié Israël dans l'an de grâce dans lequel nous sommes. Et si vous lisez Romains 9, 10 et 11, allez saisir que Dieu y a un plan pour Israël. Et Dieu au ciel, sur son trône, n'a pas oublié son peuple terrestre, Israël. Ça symbolise aussi les deux pierres feront partie des murailles de la Nouvelle Jérusalem. On voit ça dans Apocalypse 21, 19. On voit aussi que la vision de Jean du trône de Dieu ne prône pas au réconfort. Il ne donne pas la paix à Jean, mais c'est plutôt une vision de terreur et de jugement de Dieu. Jésus est venu comme une brebis, il va revenir comme un lion. Et ce que Jean est en train de décrire, il est en train de décrire justement la puissance de Dieu, puis l'alliance de Dieu avec Israël, qui s'est détournée, qui a crié que son sang retombe sur nous et nos enfants. Et ces deux pierres nous rappellent l'ancienne alliance. Et Dieu va accomplir les choses. Notre Dieu est un Dieu dévorant. Hébreux 12, 29 nous rappelle, oui, Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est saint, mais un jour, le propriétaire de la planète Terre va arriver avec les clés puis il ferme la boutique, qui va juger les morts et les vivants. Et Jean, lorsqu'il voit ce trône, lorsqu'il voit toutes ces choses, ça lui rappelle que Dieu est un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui n'est pas un vieux bonasse à grande barbe blanche, qui oublie tout et qui ne sait pas ce qui s'en va, mais c'est un Dieu qui, un jour, va faire rendre compte du bien et du mal que les hommes auront fait. Et Jean est devant ce trône. Le prophète Isaïe 6.1 voit aussi une vision du trône. Jean, ce n'est pas le seul qui a vu des visions du trône. On voit dans Isaïe 6.1, l'année de la mort du roi Ozias, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » On voit aussi le prophète Michée qui a vu le trône de Dieu. « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Le prophète Daniel a vu le trône de Dieu. « Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Ses vêtements étaient blancs comme la neige, et ses cheveux et sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des quoi? Flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Le trône de Dieu nous parle de sa majesté, de son autorité, de sa souveraineté, du fait que c'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le prophète Ézéchiel aussi va nous parler du trône de Dieu. Et au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme les reins polis comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait de tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante. Donc, il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était quoi? Regardez bien. Posons-nous pour la question. Ça le dit le texte. Dieu l'a mis là. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Voyez-vous, les prophètes de l'Ancien Testament, comme Jean, ont vu cette vision. une vision terrifiante, une vision qui dépasse leur compréhension, qui essaie d'expliquer tout ce qu'ils voient avec leurs propres mots. Et le Saint-Esprit nous met dans la bouche du prophète Ézéchiel, par sa plume, nous met que c'est l'image de la gloire de Dieu lorsqu'on est en train d'entrer ensemble dans le chapitre 4 de l'Apocalypse. Nous avons ensemble, nous sommes en train de voir le trône de Dieu qui est l'image de la gloire de Dieu avec du symbolisme qui explique beaucoup de choses en ce qui concerne les promesses de Dieu, la souveraineté de Dieu, la fidélité de Dieu et le jugement que Dieu va déverser sur la terre le jour qu'il a fixé. Et ce jugement, nous allons le voir à partir du chapitre 6 au chapitre 19. Autour du trône maintenant, l'arc-en-ciel, couleur d'émeraude, le vert dominant, on voit la fidélité et la promesse de Dieu qui est symbolisée par l'arc-en-ciel. On se souvient Genèse 9-13, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a eu ce déluge. Et Dieu a placé un arc-en-ciel. Puis il a dit, j'ai placé mon arc dans la nue. Et il servira de signe, d'alliance entre qui? Moi et la terre. Parce que Dieu ne détruira plus la terre par l'eau uniquement. On voit aussi ce trône et la promesse envers Israël. Parce que Israël, en fin de compte, Dieu lui a fait des promesses. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que j'ai préparé. Un jour, Israël entier se convertira. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et là, on a devant ce trône, c'est-à-dire les vieillards, ici, au pluriel. Il y a 24 trônes, 24 vieillards, puis il y a 24 couronnes. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, ils règnent avec Christ. C'est Apocalypse 5, 10 nous le dit. Deuxièmement, ils sont revêtus de vêtements blancs. Et ils ont tous une couronne sur la tête. Et il y en a qui vont dire, ben, c'est des anges. Mais j'aimerais vous suggérer que là, non pas des anges, mais des hommes. Pourquoi? La robe blanche, le plus couramment associée aux croyants, symbolise la justice de Christ imputée aux croyants. 3:5, celui qui vaincra sera aussi revêtu de vêtements blancs. On voit les couronnes. Les Stéphanos, ces couronnes, on voit jamais des anges avec des couronnes, mais on voit des croyants avec des couronnes. Jacques nous parle, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. On voit aussi Pierre qui nous parle de couronne. Il va dire, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez quoi? La couronne incorruptible de gloire. On voit Paul qui va nous dire ici, dans 1 Corinthiens 9, 25, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, les enfants de Dieu, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Il y a aussi Paul en Timothée qui va parler, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ces vieillards représentent l'humanité, représentent ces 24 vieillards des anciens. Alors on voit 4-5A, on voit du trône, il sort quelque chose. Et là, c'est vraiment actif. Hein? Il sort des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. C'est pour ça que Jean n'est pas là en train de regarder ça. Puis, oh, si c'est beau! Jean, il panique, là. Il a peur, là. Comme les autres prophètes de l'Ancien Testament. Il essaie de nous expliquer tout ça, mais ça dépasse ce qu'il voit, là. C'est... C'est vrai que nous autres, on est habitués de voir les films d'Hollywood, et puis on voit des hein, les effets spéciaux, puis etc. Puis on est habitués de voir ça, nous autres. Mettez-vous à la place de Jean. Il est sur une île. Il connaît l'âne, le chameau, le cheval, le chat, le chien. Il marche avec des sandales. Là, il arrive à une place, puis ça le dépasse. Et je suis convaincu que ça nous dépassera nous aussi. Un signe avant-coureur de la tempête de feu qui va se déchaîner sur la planète Terre. Regardez le jugement de Dieu. 16-18. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. On va voir ça dans le futur. Les éclairs, des voix, des coups de tonnerre est associé au jugement de Dieu. Devant le trône maintenant, il brûle 7 lampes ardentes, des torches. Et là, on se dit, ouais, mais c'est quoi ces torches-là? Bien, ça le dit plus bas. Qui sont quoi? Les 7 esprits de Dieu. Qui nous parlent, en fin de compte, de la plénitude de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Et le chiffre 7 est un chiffre de plénitude. On ne peut pas diminuer ni ajouter. C'est Dieu dans sa toute souveraineté, dans sa toute puissance, dans sa toute grandeur. Dieu est là et c'est lui qui règne. Il y a encore devant le trône une mer de verre semblable à du cristal. Imaginez ça, une mer qui représente la pureté et la lumière dans le ciel. Imaginez ça, là, une mer de verre comme du cristal. Jean essaie de nous expliquer qu'il voit de quoi qu'il ne peut pas expliquer. Puis pour lui, il l'associe à cela. La pureté, la lumière, une mer de verre. Hey, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on voit au milieu du trône et autour du trône? Il y a 4 êtres vivants. Et là, on commence à rentrer dans les affaires des bébites. Souvenez-vous, la première fois que j'ai introduit l'Apocalypse, j'avais dit, c'est un paquet de bébites dans l'Apocalypse. Mais l'animal qui vient le plus souvent, c'est laquelle? Ça ne finit pas, hein? L'agneau, 25 fois. L'agneau est partout dans l'Apocalypse. Mais on a ces animaux-là. 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Rencontrez ça dans une ruelle, vous allez faire le saut. Vraiment? Abouez-vous, là? Et puis là, les commentateurs sont creusés la tête. C'est qui? C'est quoi? C'est quoi ça? Assez intéressant. On voit qu'il ressemble. Il y en a un qui ressemble à un lion, qui représente les animaux sauvages. Le lion représente la majesté, la force, la dignité, hein, le lion. Il règne. On voit aussi qu'il y en a un qui est semblable au veau, qui représente les animaux domestiques. Ce genre de création qui sert les hommes, qui sont soumis à l'homme. Est-ce qu'on se souvient qu'à la chute, avant la chute, la création était soumise à l'homme? L'homme donnait des noms à des animaux. L'homme marchait, puis il y avait le règne sur la création de Dieu, jusqu'à ce que l'usurpateur Satan est venu lui enlever. Et ces êtres avec des yeux tout le tour, en dedans et en dehors, un semblable à un lion qui représente la force, l'autre, le veau, qui nous symbolise les animaux domestiques. On voit le 3 à la face d'un homme qui représente le summum de la création de Dieu, qui symbolise la raison de l'homme. L'homme qui a conscience que Dieu existe. L'homme en qui Dieu a mis la pensée de l'éternité, Ecclésiaste 3:1. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Dieu nous a fait 3 beaux cadeaux lorsqu'il nous a créés. Il nous a donné une intelligence pour réfléchir, une sensibilité pour entretenir des relations d'amour avec notre Créateur et nos semblables, puis il nous a donné le libre choix. L'homme fonctionne par les choix. Et les animaux fonctionnent par instinct. Le 4e, lui, de cet être vivant, est semblable à un aigle, qui représente les créatures volantes, qui nous parle de rapidité. Et ces êtres-là sont là. Et les quatre êtres vivants, nous dit le verset 8, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Imaginez-vous. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Suivez-moi. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Ah, en plus d'avoir cette apparence, ils disent de quoi? OK? Suivez, là. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et vous savez comme moi, c'est le même cri qu'on voit au chapitre 6 d'Ésaïe, au verset 3, où ce qu'on voit ces êtres qui crient la même chose. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Qui sont ces êtres humains? Ces êtres bizarres. On ne pourrait pas dire humains, mais ils sont vivants. Qui sont ces êtres bizarres? Ézéchiel les identifie clairement. Ézéchiel 1:3 à 28, 24, il va parler. Et les chérubins s'élevèrent, c'est les animaux que je vis près du fleuve de Kébar. On va revenir ici avec Ézéchiel dans la prochaine semaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire remarquer que les chérubins qu'Ézéchiel est en train de décrire, c'est les mêmes chérubins qui ont des yeux en dehors et en dehors. Les mêmes qui crient Saint, Saint, l'Éternel. Et Ézéchiel est en train de vivre dans son ministère quelque chose de terrible. Ézéchiel 11, 23, on voit la gloire de l'Éternel qui quitte Israël. Ikbal. Et l'Esprit de Dieu quitte le temple et ne revient qu'à Matthieu 23 lorsque le Seigneur va rentrer à Jérusalem. Et là, ces chérubins sont là et c'est eux qui créent Saint, Saint, Saint l'Éternel, qui enlèvent la gloire de Dieu de sur la planète Terre. N'oubliez pas ce phrase-là, va revenir. Et là, les quatre êtres vivants sont donc des chérubins protecteurs symboliques de la sainteté de Dieu. Pourquoi symboliques? Parce que Dieu est capable de se protéger tout seul. Mais Dieu a mis des symboles de sa protection, de sa sainteté, afin qu'on puisse être impressionné, regarder et reconnaître la sainteté de Dieu. Et lorsqu'on y réfléchit comme il faut, la sainteté de Dieu, Dieu qui ne peut pas voir le péché et ne peut pas acquérir le péché ni faire le péché. Dieu est le péché. Et on va comprendre à cause de la sainteté de Dieu, Jésus a été cloué sur la croix, abandonné de son Père, puis il a crié « Eli, Eli, sama labi tchani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est parce que le Père a détourné de son fils son regard, sa présence, parce qu'il portait nos péchés, parce que Dieu est saint, saint, saint. Deux chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie dans Genèse 3:14. Deux chérubins qui sont sculptés dans le sein des saints afin de garder symboliquement la sainteté de Dieu dans l'arche de l'Alliance. Et Satan, avant sa chute, était un chérubin protecteur. Là, jetez toutes vos photos de Satan dans les poubelles. Et c'est dans le ciel. Ces êtres qui créent Saint, Saint, Saint et l'Éternel. La vision du trône de Dieu. Et Jean essaie de nous expliquer et nous faire voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu qui est Saint, Dieu à qui nous devons donner gloire. Maintenant, rendu ici dans cette doxologie, nous avons un modèle d'adoration extraordinaire. Ce modèle-là nous accompagne dans tous les repas du Seigneur, dans tous nos temps d'adoration, dans tous nos temps où ce que nous allons aller dans la prière devant le trône de grâce et que nous allons prier Dieu et connaître Dieu de mieux en mieux et de vraiment réaliser la gloire et la sainteté de Dieu à qui va toute adoration, tout honneur et toute gloire. Regardez bien, il se passe quelque chose. ça commence avec ces quatre êtres vivants-là, que eux vont crier « Saint, Saint, Saint ». Et essayez d'imaginer là l'action, OK? C'est pas inerte. Il y a des éclairs qui sautent à gauche et à droite. Il y a du train, il y a des voix. Et là, il y a tout un mouvement d'adoration qui commence à se faire devant le trône de Dieu. Et quand les êtres vivants rendaient gloire, honneur et action de grâce, la gloire, donner gloire à Dieu, premier principe de l'adoration. Deuxième principe, honorer Dieu avec nos vies, nos possessions. Donner action de grâce, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'on peut faire par sa grâce. Lui donner tout le mérite. Lui donner la première place. Le remercier pour tout ce qui nous concerne. Mes amis, c'est une belle toile de fond, ça, pour nourrir les tables du Seigneur pendant 1000 ans. Et ça continue. Et ici, on va voir ces 24 vieillards qui sont des vieillards croyants, qui se prosternent, proskineo, qui se jettent contre terre. Parce que vous savez, le mot adoration, c'est ce qu'il veut dire littéralement. Face contre terre. Et le dictionnaire va vous dire, pour nous donner une image d'attitude, Strong va nous dire, c'est comme un chien qui lèche la main de son maître qui pourvoit ses besoins. C'est vraiment à pleine rente de se faire plus petit possible devant le grand Dieu de gloire, le propriétaire du ciel et de la terre. Ces 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent contre terre. 4. 5. Ils jettent leur couronne devant le trône. En disant, Seigneur, si j'ai telle ou telle couronne, ce n'est pas par mes propres mérites, c'est ta grâce. À tes pieds, et c'est toi qui dois avoir tout honneur, non pas moi qui a la couronne de vie, non pas moi qui a la couronne de justice, mais c'est toi qui dois avoir tout l'honneur et la gloire. Quand est-ce qu'on a vu ça, un chrétien qui dit, « Hey, je suis sauvé, wow, je suis bon. Je suis donc intelligent. Moi, j'ai lu le traité, puis je suis donc bon. » Personne ne parle de même. Et c'est ça que ça veut dire. Jeter notre couronne aux pieds veut dire qu'on donne gloire à Dieu pour qui nous sommes. On est reconnaissant. On lui donne la gloire et l'honneur. On l'admire. On l'élève parmi nous. Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître. Et c'est ce qui arrive. Et celui qui vit au siècle des siècles, d'éternité en éternité, ils vont dire ce cantique merveilleux, « Tu es digne. » Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et 6 puissances. À toi toute puissance, toute souveraineté, car tu es le Dieu merveilleux qui fait des choses extraordinaires. Un Dieu qui n'est dépassé par aucune situation. Le Dieu qui est en contrôle. À toi, toi tu es digne. Et là, ça élimine tous les faux dieux de ce monde. Toi, tu es digne. Le verset 11b nous dit, « Car tu as créé. » Et là, ils vont nous donner la raison. C'est beau dire que Dieu est digne. C'est beau dire que Jésus est digne. Mais savons-nous pourquoi qu'il est digne? Parce que tu as créé toutes choses. La tombe, la matière, le règne animal, végétal, l'être humain, Dieu a créé les choses visibles et invisibles. Pour cela qu'il est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Isaïe, lorsqu'il a prophétisé, va dire ceci, Isaïe 44, 25, « Voici ce que je déclare. » Voici ce que déclare l'Éternel, ton libérateur, celui qui t'a formé dès le sein maternel. Oui, c'est moi, l'Éternel, qui a fait toutes choses. Moi seul, j'ai déployé le ciel, j'ai étendu la terre sans aucun aide. L'Éternel seul a créé. Yahvé de l'Ancien Testament qui a créé. C'est Jéhovah Dieu qui a créé. C'est lui qui a tout fait. Paul va dire dans Colossiens 1, 15 et 17, va nous dire ceci, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né, prototokos, qui veut dire le premier en importance, et non pas chronologique, de toute la création. C'est lui qui est souverain, c'est lui qui gouverne. Car en lui ont été créées toutes choses et qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. C'est pour cela que tu es digne de recevoir la puissance, l'honneur et la gloire. Comment peut-on donner gloire à Dieu si on ne sait pas pourquoi? Si on ne sait pas pourquoi qu'on doit donner gloire à Dieu, comment peut-on adorer Dieu? Lui qui est la source de la vie, qui est la source de toutes nos bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, est-ce qu'on les connaît? Sommes-nous passionnés au point de dire « Je connais mes bénédictions spirituelles et je veux rendre grâce à Dieu, lui donner la gloire, l'honneur, à lui la toute-puissance. » Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le christianisme biblique, chers amis, est christocentrique. Christ est le centre de la vérité biblique. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et nous sommes devant son trône dans le ciel. Où est-ce qu'on lui donne gloire et honneur? Et quel privilège que nous avons! Philippiens nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou va fléchir un jour. Et savez-vous que nous, aujourd'hui, en 2008, nous avons le privilège de fléchir les genoux devant Dieu, notre Dieu sauveur, créateur, et lui donner toute la gloire et l'honneur. Avant qu'on parte de cette planète Terre, on peut le faire avant. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Par sa parole puissante, il maintient toute chose à la place. Les planètes sont à bonne place. Les choses rouleront, même si on voit du chaos alentour de nous, on voit tout simplement le résultat de l'homme sans Dieu, qui se croit propriétaire de la planète Terre, mais il ne l'est pas. Je pensais à ça l'autre jour. Vous pensez que c'est affreux ce que le monde fait avec la planète, la pollution et tout ça? Ça va vous dire quelque chose, mais que Jésus ait fini avec la planète, là, il va être magané pas mal. Il a fait des promesses. Deux questions pour terminer. Deux questions très simples. Qui est sur le trône? L'Éternel ou Jésus-Christ? Je ne veux pas lever la main. Qui est sur le trône? L'Éternel ou Jésus-Christ? Dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui est sur le trône. Isaïe nous dit que c'est l'Éternel qui a créé toutes choses. Lui seul a créé toutes choses sans l'aide de personne. Et lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, Nouveau Testament, on voit que c'est Jésus qui a créé toutes choses. On voit que c'est lui qui maintient toutes choses. Parce que lorsqu'on admire Jésus-Christ, on admire Dieu lui-même. L'image du Dieu invisible. 1 Corinthiens 4, 3 et 4 nous dit ceci, mes amis. Si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent. Donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image du Dieu invisible. Le trône de Dieu nous révèle la gloire de Christ, qui est digne de recevoir tout honneur. Jésus-Christ est l'Éternel, le Yahvé de l'Ancien Testament, ce nom ineffable que personne ne prononçait. On disait Adonai à la place, qu'on voyait ses lettres et on n'osait pas prononcer ce nom qui est oublié au travers des siècles. Mais nous voyons que dans l'Apocalypse, la même personne, Jésus et l'Éternel, sont un dans sur le trône. Et c'était eux qui règnent. Deuxième question. Qui est sur le trône de votre cœur? Je me disais à moi-même, comment finir une merveilleuse, un merveilleux texte comme ça. Comment finir ça? C'est tellement beau. Je regarde, c'est en couleur. Je le vois en couleur. Là, ouais. Puis, c'est épeurant. Ça me fait réaliser que l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Et il est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur. Il est souverain, il est glorieux, il est saint. Il est digne de régner dans ma vie. Et j'ose vous poser la question. Celui qui est assis sur le trône dans les cieux, est-il le même qui est assis sur le trône de votre cœur? À qui est-ce que nous nous soumettons? Qui est le Seigneur de nos vies? Cette photo, cette peinture qui est célèbre, qui nous montre, Apocalypse 3:20, Jésus se tient à la porte et je frappe. Avez-vous remarqué sur la photo? Il n'y a pas de poignée après la porte, à l'extérieur. La poignée est par en dedans. Le Seigneur est un gentleman. Il cogne à la porte. Si vous entendez sa voix, si vous entendez le Seigneur cogner à votre porte, vous lui faites partie de ceux qui vont adorer Dieu devant ce trône de gloire. Ouvrez la porte au Seigneur. Laissez-le rentrer. Vous savez, on est dans un monde moderne et le Seigneur cogne toujours à la porte. Parce qu'un jour, comme du temps de Noé, Noé, prédicateur de justice, prêcha, et on riait de lui, puis on faisait fi de son message. Un jour, Dieu, quoi, ferma la porte. Pas Moïse, c'est pas Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. Et laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. On est dans l'ère de grâce 2008. Et un jour, le propriétaire de la planète Terre va venir ici, puis il va fermer la porte de la grâce. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez au Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, nous sommes sous ton regard de flamme. Rien n'est caché, rien n'est couvert. On a vu beaucoup de symbolisme ce matin, Seigneur. Mais une chose est certaine et claire. C'est que Jésus-Christ, notre Sauveur, est digne de recevoir l'honneur, la gloire. Il est digne de régner dans nos vies. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons aussi, comme ces êtres vivants qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint, Saint est Jésus », parce que son sang précieux a expié nos péchés. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne t'a pas accepté comme sauveur personnel, nous allons prier pour cette personne, afin que tu sois le maître, le roi, dans son propre cœur. Et pour nous, comme chrétiens, Seigneur, nous voulons te demander de réaliser et de vivre la seigneurie de notre sauveur quotidiennement. Rappelle-nous, Seigneur, notre Dieu glorieux, notre Sauveur et Maître, qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la souveraineté au siècle des siècles. Seigneur, on a vu une parcelle du ciel ce matin. Et avec des mots imparfaits, une description imparfaite, on a saisi que c'est un temps. C'est une vision qu'on pourrait dire qui nous renverse, qui nous dépasse. Seigneur, parle à nos cœurs et fais de nous tes adorateurs. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Bonne journée.